Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté une affaire criminelle du 19e siècle, le meurtre en 1882 du curé du village de Saint-Arc-Condallier en Haute-Loire, l'abbé Rivet, par un certain Pierre Mallet, condamné à mort et guillotiné. Histoire que je débriefe avec vous, Marie-Line Avon, vous êtes historienne et responsable du pays d'art et d'histoire du Haut-Allier. J'ai d'abord envie de vous demander, est-ce que vous connaissiez cette histoire ?
Alors évidemment, j'en avais entendu parler, mais c'est vrai que voilà, la retranscription donne un autre élan à l'ouvrage que j'ai eu l'occasion de lire.
Elle est connue chez vous, en Haute-Loire, cette histoire ?
Elle est connue chez nous, elle est bien connue dans la vallée de l'Allier et dans les gorges de l'Allier, puisque ce village de Saint-Arcon est assez emblématique aussi du patrimoine de notre territoire, et c'est des choses qu'on raconte assez régulièrement dans les visites.
Donc vous pensez que tout le monde est au courant à Saint-Arcon qu'un curé a été ventré sur un chemin en 1882 ?
Alors je pense que c'est quelque chose qui est, pour les anciens en tout cas, assez encore présent, on va dire.
Et les autres devront écouter l'histoire que je viens de raconter, ça leur fera une mise à jour.
Effectivement, ils y auront tout intérêt.
Alors vous-même, vous connaissez le décor de cette histoire, de l'église donc de Saint-Arc-Condallier, le presbytère ?
Oui, ben on est dans un de ces villages perchés de la vallée de l'Allier. C'est un lieu qui est assez chargé d'un point de vue religieux, puisque c'était un prieuré qui dépendait d'une abbaye qui est toute proche. Donc on a encore les vestiges effectivement de l'ancien prieuré, et puis on a l'église de Saint-Arcon qui est plutôt un édifice qui date de l'époque médiévale, et il y a encore aujourd'hui un attachement très très fort à ce lieu, à la fois d'un point de vue historique et puis d'un point de vue religieux.
Vous, en tant qu'historienne, c'est quelque chose qui vous intéresse, une histoire comme ça, ou alors c'est juste un fait divers qui est finalement déconnecté de l'histoire avec un grand H ?
Bien, c'est au contraire, c'est plutôt intéressant, puisque ça pointe aussi du doigt les mentalités locales, si je puis dire, de cette fin du 19e siècle dans cette région, un peu reculée, on va dire, même si le chemin de fer est arrivé depuis quelques années là, en lien avec par la période du meurtre, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose, la présence des prêtres dans les villages, les presbytères, ils ont un rôle qui était majeur et qui restait très longtemps très important. Il y a un rapport très particulier du prêtre à la population, et on est tout de même dans ce département de la Haute-Loire, et en l'occurrence sur notre secteur, profondément catholique.
Plus qu'ailleurs en France, vous pensez ?
Alors plus qu'ailleurs, je ne sais pas, mais c'est vraiment lié là aussi à l'histoire, au passé. Je pense bien sûr à l'évêché du Puy, au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle depuis l'époque médiévale. Et c'est vrai qu'on est un territoire rural, donc qui est principalement des paysans, des cultivateurs. Et c'est vrai que les prêtres, comme les sœurs aussi qui étaient dans ces communautés monastiques, vont avoir un rôle aussi, bien sûr, d'évangélisateur, mais aussi d'éducation, puisque c'est eux qui vont aussi apprendre, on va dire, aux jeunes de ce pays. Donc la religion aussi, les célébrations, enfin tout ça est quand même très très présent, très important.
Il faut qu'on explique deux choses sur le Puy-en-Velay. Donc c'est le départ de l'un des quatre chemins de Compostelle.
Voilà, effectivement, qui depuis c'est Godescalc, évêque du Puy, qui va lancer en 910 le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle au départ du Puy-en-Velay.
Donc ça part de là, quoi.
Ça part de là, et puis il y a aussi cette zone aussi du Gévaudan, parce que on n'est pas loin aussi effectivement du pays de Sogues, et voilà, la religion a un poids quand même très prégnant sur ce secteur-là à cette période-là, mais si je puis dire, ça va perdurer et ça l'est encore aujourd'hui.
Il faut donc qu'on parle du mobile de ce crime affreux, parce que je dis affreux parce que c'est quand même pas courant qu'un prêtre soit à la fois éventré et émasculé. Donc il y a deux hypothèses. Il y en a une qu'on formulait pas comme ça à l'époque, mais qui est psychiatrique. On a quand même le sentiment que ce garçon n'est pas extrêmement équilibré, ne serait-ce que par l'allure qu'il présente au procès. Et puis il y a une hypothèse politique, et c'est celle-là que je voudrais évoquer avec vous. Mallet aurait donc tué l'abbé Rivet parce qu'il est anticlérical. Ça colle à l'histoire locale, ça ?
Alors ça colle à l'histoire locale, et puis ça colle aussi à l'histoire effectivement de l'émergence de cette Troisième République. c'est vrai que comme vous le voilà, vous l'exprimez aussi dans le récit, on sent effectivement tout l'enjeu aussi de bien cette lutte contre le clergé, ces mouvements aussi qui sont insufflés, mais qui mettent du temps effectivement à rentrer là dans cette campagne profonde et qui vont transiter justement par un homme comme ce Mallet qui va partir d'une certaine manière et qui va travailler ailleurs et qui voilà va aussi découvrir sûrement d'autres choses et d'autres façons de penser.
C'est-à-dire que vous envisagez l'hypothèse qu'il ait ramené finalement cette idée de bouffer des curés, d'éventrer des curés, de les émasculer, de les châtrer, comme il disait, de ses voyages aux confins de l'Allier.
Disons qu'il y a des chances pour que il va sortir effectivement du cadre familial qui semble pas simple non plus à la lecture effectivement du récit, mais c'est vrai que le fait qu'il était employé aussi à la construction des lignes de chemin de fer comme terrassier, il se confronte un peu aussi à cette nouvelle société issue de l'industrialisation où effectivement les idées anticléricales font quand même bien plus écho qu'au sein de notre population rurale de ces années 1880, en l'occurrence dans la vallée de l'Allier et à Saint-Arcon.
C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'une forme de modernité arrive non pas par le train, mais déjà par le chantier du train.
Oui, effectivement, puisque c'est quelque chose qui va bousculer vraiment ce secteur, la construction, elle s'opère entre les années 1866-1870. Donc on a une amorce aussi d'ouverture, même si on est encore sous le règne de Napoléon III. Mais n'empêche que petit à petit, la construction de cette Troisième République, c'est l'ouverture, c'est l'industrialisation, et ça va toucher en fait nos secteurs en emmenant une nouvelle population tout simplement, à la fois une population française mais aussi des étrangers qui vont venir travailler à la construction de la ligne.
Et c'est néanmoins un courant assez rare à cette époque-là en Haute-Loire.
Oui, c'est absolument pas... Ça commence vraiment à émerger à peine. Il va y avoir des luttes très fortes justement entre ce volet effectivement des hussards de la République de l'école avec la confrontation localement avec donc les béates, donc ces jeunes femmes qui vont servir effectivement à l'éducation des jeunes, mais dans un respect de la tradition et surtout de la religion.
L'hypothèse que vous formulez était assez renforcée, je trouve, par l'empressement de sa sœur, qui est donc religieuse, à le faire avouer devant Dieu.
Oui, parce que c'est au regard, de cette période-là, ça reste effectivement la présence la plus importante, et c'est au regard plus, de Dieu que de la justice qu'il faut qu'il s'exprime en fait.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ce sont des idées modernes qui émergent, la République, mais qu'à côté de ça, on a quand même un type qui n'est pas un intellectuel non plus.
Non, ça on en est bien d'accord, on se doute que...
Donc au fond, il s'est approprié l'écume des idées.
Oui, je pense, parce que c'est vrai que, alors vous parliez d'écume, je pense qu'il a beaucoup écumé aussi les petites guinguettes, les petits troquets pour capter un peu on pourrait dire de manière assez moderne, les brèves de comptoir, mais c'est vrai que il voit ça en surface. Après, est-ce que c'est l'appât du gain ?
Il y a probablement un mélange des deux.
Il y a probablement un peu des deux, mais c'est vrai qu'on sent bien que il a quand même quelques limites à la réflexion, la compréhension.
Oui, d'autant plus qu'à aucun moment il ne va utiliser l'argument politique. Son avocat lui tend une perche, il ne la saisit pas du tout.
Non, et je pense que c'est au-delà même de ce qu'il imagine. C'est presque un acte... comme si ça lui était passé à ce moment-là par l'esprit, et c'est corroboré effectivement par les dires qu'il a pu avoir dans ce fameux café à un moment donné.
Marie-Line Avon, responsable du Pays d'Art et d'Histoire du Haut-Allier, merci infiniment, et toutes mes amitiés personnelles aux habitants de Saint-Arcon-d'Allier. Si vous pouvez les leur transmettre, ça serait fort aimable de votre part.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.